un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Comme on parle d'éducation positive pour désigner la méthode centrée sur l'écoute des besoins de l'enfant, l'attention portée à son bien-être et à ce qu'il exprime, voire à ses droits fondamentaux, on pourrait ici l'appeler éducation négative. Car celle-ci, si tant est qu'elle mérite le nom d'éducation, n'est que sanction, privation, autorité abusive, coercition, punition, bref, tout ce qui, on le sait, produit des résultats catastrophiques, des traumatismes irréversibles. On l'a vu il y a quelques jours avec les jeunes pensionnaires du Bon Pasteur que nous avions appelés les diablesses, et on retrouve aujourd'hui ce genre de méthode dans une autre institution catholique, un centre dit de redressement, où les enfants sont censés être dressés ou redressés donc, et qui porte mal son nom puisqu'il s'appelle la Belle Étoile. Un lieu où on semble avoir oublié, comme parfois aujourd'hui, ce que ça veut dire être un enfant, ce que c'est l'excuse de minorité, la jeunesse et pourquoi pas l'innocence et le droit de la revendiquer. Un lieu qui finit comme souvent par punir les enfants d'être nés là où ils l'ont été, dans un milieu défavorisé pour la plupart ou maltraitant, de les punir pour la défaillance de leurs parents, tout aussi perdus parfois. Cela se passe entre 1950 et 1970, il y a donc pas si longtemps, en Savoie. On écoute deux survivants qu'Antoine Guérimaud a rencontrés pour nous.
Je m'appelle André Boiron, je suis né le 23 mars 1943 à Lyon, 2e. J'ai 81 ans. Je suis né à Lyon pendant la guerre, la Deuxième Guerre, en 43, et on habitait rue Confort, dans une rue de prostituées, dans un meublé de 40 mètres carrés, où on y vivait à 6, avec une seule fenêtre qui donnait dans une cour. Mon père ne travaillait jamais, c'était un ivrogne. Ma mère, elle était impotente, personne ne s'occupait des enfants, de nous. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait. Dans la rue Confort, à Lyon, étaient belles les prostituées, c'était les plus belles prostituées de Lyon. Quand elle me voyait, elle m'appelait Coco, viens voir et tout, elle me passait les mains dans les cheveux. J'avais un peu d'affection avec elle. C'est le seul geste de tendresse que j'ai reçu, parce que jamais ma mère, elle m'a pris dans ses bras, jamais mon père m'a fait une bise, jamais ma mère m'a embrassé, jamais. Par contre, avec les prostituées dans la rue, c'était une affection. Je me disais, tiens, j'aimerais bien avoir une mère aussi gentille que ça. Vivre à 6 dans un 40 mètres carrés, c'était intenable, sans fenêtre qui donne de l'extérieur. Donc je m'échappais souvent. Mais on traînait les rues, j'étais avec mon frère, on faisait que des conneries. Ma mère me tapait énormément, donc ça résonnait un peu dans tout l'immeuble. Les voisins se plaignaient, ça durait des mois et des mois et des mois, jusqu'au jour qu'ils ont craqué, ils ont porté plainte, et puis... Ils ont demandé à mes parents de faire quelque chose. Mon père, il a écrit au juge des enfants pour me placer. Et donc, ils ont trouvé le moyen de me placer dans ce centre de redressement de Mercury tenu par l'abbé Guérin. Alors mon père m'a emmené à Mercury, à la gare Perrache. On a pris un train à vapeur et on est arrivé là-bas à Albertville dans l'après-midi et il n'y avait personne au rendez-vous. Il me laisse tout seul en attendant que quelqu'un vienne me chercher. Il n'avait pas les moyens de nous amener à Mercury. J'avais aucun habit, aucun paquetage avec moi. J'avais que les affaires que je portais sur moi. Et donc on l'a attendu dans ce bar. Il commençait à faire nuit lorsqu'une bonne sœur s'est amenée avec une de chevaux, nous a amenés au centre de Mercury. Et là, je suis rentré dans le réfectoire où donc il y avait une trentaine de gamins. Un silence complet. c'était morose. Il nous montre notre chambre, notre lit qui était sous les toits. Il n'y avait pratiquement pas de chauffage. Et pour les repas, c'est qu'on n'avait pratiquement rien du tout à manger. On cherchait comment, où trouver de la nourriture à l'extérieur, parce qu'on allait faire les poubelles derrière l'épicerie de la sœur de la Béguérin, qui tenait la seule épicerie de Mercury. Alors des fois, on trouvait des bonbons, on trouvait des trucs périmés qu'on mangeait. Lors des promenades, si on arrivait à piquer une pomme sous un pommier, sous la neige à moitié pourrie, et qu'on mangeait, autrement, des châtaignes, des cœurs de chardon, des coings crus, c'est dégueulasse. Bon, bah, ça remplissait l'estomac. Des pommes de terre crues aussi. Tout ce qui était mangeable, on y ramassait. Avec l'estomac qui criait famine, on ne pouvait pas apprendre nos leçons, ça c'est évident. S'il y avait une leçon à apprendre et qu'on ne pouvait pas la réciter, c'était la privation du repas qui suivait, à genoux au milieu du réfectoire, les bancs croix. Et bien souvent avec nos chaussures au bout des mains. Personne ne pouvait réciter une récitation par cœur. Ce n'était pas possible, on crevait trop la faim. Il ne fallait pas se faire piquer à prendre une pomme dans un pommier. Hein. Parce qu'on était puni directement du repas qui suivait. Et puis, sans compter une ou deux paires de claques. Une fois, bon, j'avais fait une connerie. Il m'a mis à genoux au milieu du réfectoire. Tous les autres, ils étaient montés se coucher. Moi, j'étais à genoux dans le réfectoire. J'étais tout seul, il n'y avait personne. Et je vois la porte de la cuisine qui était entrebâillée. Quand le chef rentre pour aller se coucher, et il m'a dit de monter, je vais me coucher, et j'attends à peu près une demi-heure, 20 minutes, et je redescends doucement, je passe par la fenêtre, je vais dedans le frigo, j'ai piqué 2-3 tablettes de chocolat, mais comme un andouille, j'ai foutu ces tablettes de chocolat au fond du drap, dans mon lit, et le matin, ils se sont aperçus qu'il y a eu pillage dans la cuisine. Le chef s'est mis à côté de mon lit, parce qu'on devait faire plier les couvertures et les draps. Mais mon Dieu, quand j'ai vu que les tables de chocolat avaient complètement fondu dans les draps, alors là, je me suis dit, je suis cuit, je suis de chez cuit. Et là, c'était la dérouillée de ma vie. La dérouillée de ma vie que j'ai pris. On était frappé pour plusieurs raisons, soit des chahutements dedans les dortoirs, ou donc... En 2 minutes, il fallait se retrouver en bas, en rang, et on montait jusqu'au col de Tamier. 7 km aller, 7 km retour. Et à 9 ans, j'avais 9 ans, que ça soit l'été, l'hiver, c'était le même parcours. C'était des fois 10h, 11h du soir. Et dans la nuit, on montait jusqu'au col de Tamier. Je me disais, bon, ben, un curé, c'était pour moi un être haut placé. Qui savait ce qu'il faisait, donc on acceptait les violences. Les punitions, bon, ben, j'avais qu'à pas piquer une pomme, et si je prends une paire de claques, c'est normal. L'abbé Guérin faisait la messe du village, connaissait tout le monde, c'était pratiquement lui le maire. Et le centre de Mercury se trouve au milieu de la ville, et l'hiver, ils nous faisaient tous courir, un derrière l'autre, complètement à poil, nus, pieds nus, dedans la neige. On cachait son sexe et on prenait des coups de bâton pour qu'on mette les mains le long du corps et en courant pieds nus, à poil, complètement à poil, devant toute la ville de Mercury. Et on tournait et tout le village nous voyait. Vous vous rendez compte, j'ai une petite tête à 9 ans, des petites têtes de rien du tout, puis toute maigre. Et on se prenait des claques. Et des fois même, ça m'arrivait que la paire de claques était tellement forte qu'il me faisait tomber. C'était horrible, 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 horrible. J'ai pas vu mes parents pendant presque 3 ans. 3 ans et jusqu'au jour que l'abbé Guérin me dit ben, « Prépare-toi et je vais te ramener à la guerre d'Albertville et est-ce que tu sais retourner chez toi ?» Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé chez moi, rue Confort. Je monte les escaliers, on habitait au deuxième. Ma mère, elle me voit arriver, elle n'était pas du tout avertie. Et elle s'est mise en larmes. J'étais trop maigre, j'étais prêt à casser ma pipe, je tenais presque plus debout. Et il y avait un plateau en aluminium avec trois pommes cuites et avec du caramel dessus. J'ai dit, maman, est-ce que je peux en prendre une? Elle dit, mais vas-y, prends-en une. Mais alors ça m'a fait battre le cœur. Les vitamines que j'absorbais par rapport à tout ce caramel, ça m'a fait un bien incroyable. D'ailleurs, j'en ai pris une autre, et puis je crois que j'ai fini les trois pommes. Tellement que j'avais vraiment faim. Et lorsque je suis revenu de Mercury, chez mes parents, c'était pareil, 40 mètres carrés, on n'avait même pas une chaise, c'était des caisses à oranges qu'on s'assoyait dessus, il n'y avait rien, donc c'était se démerder tout seul. Et un jour, je travaillais, j'avais 13 ans, j'étais livreur d'épicerie, mais j'étais vraiment très 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 mal payé jusqu'au jour où je lui ai fait sa caisse, je lui ai piqué... la recette, et puis voilà, j'ai pu me nourrir. Je me suis payé un restaurant, je me rappelle. Je me suis payé un restaurant. Ensuite, bon, bah, je me suis marié, et puis ça n'a pas tellement marché. Et puis après, on s'est quitté, et j'ai fait des conneries. On faisait des coffres-forts. Je prenais une mobilette dans les années 55, par là. Il n'y avait pas de vitre, c'était des portes western, il n'y avait qu'à passer, le coffre était ouvert, on prenait l'argent et on repartait. C'était tellement facile. J'avais honte au départ. Je me disais, mais bon Dieu, mais c'est pas mon pognon, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Mais bon, bah après, c'était la routine. J'ai vécu de cette manière-là, à faire des banques, à faire des transports de drogue. Toutes les conneries qui pouvaient me rapporter des sous. Et en tout, j'ai pris 53 ans de prison. En plusieurs fois, bien sûr. Moi, le tout, c'était prendre l'argent. Prendre l'argent, faire ouvrir le coffre, et prendre l'argent et repartir. Jamais de violence. Hein, ça, j'ai subi la violence. Mais les gens, j'ai jamais, jamais donné... taper qui que ce soit dans une banque ou ailleurs. C'est pas possible, ils m'ont rien fait, ces gens. Tout ça vient de la suite de Mercury, où donc j'ai rien appris, on a essayé de me redresser. Bien au contraire, ils m'ont plutôt endurci que redressé. D'apprendre à voler, à se démerder pour se nourrir. Qu'est-ce qu'ils m'ont esquinté? Ils m'ont complètement abîmé, complètement détérioré dans ce centre. Et je suis sorti de prison, c'était en 2012, la dernière peine que j'ai faite. J'en ai très peu parlé à ma famille, à mes enfants, de ce que j'ai vécu à Mercury, parce que franchement, personne ne voulait nous croire. Mais il y a environ 5 ans, à Saint-Fond, j'ai pris contact avec un gars sympa, et on expliquait un peu sa vie. Moi, je lui dis, moi je suis à la retraite, mais tu sais, je fais pas grand-chose, j'ai fait 35 ans de ballon. Et avant, j'étais au centre de Mercury. T'étais au centre de Mercury, et moi aussi, j'y suis allé. Et c'est de là qu'on... Tout s'est enchaîné, puis on s'est retrouvé à 20, 30, 40, mais tout le monde racontait la même chose. Après ça, Clément Davigo a eu l'idée de faire un film. C'est grâce au film qu'on a visité la cellule d'écoute. Moi, je contacte le diocèse de Chambéry pour être entendu, pour dénoncer tout ce qui se passait dans ce centre de redressement. Et de là, on est reçu par un couple qui mène la bonne parole. Ils ne s'imaginaient pas ce qu'on a subi. Et ils nous disaient, ben, si vous avez un bobo sur la main, eh ben, écoutez, frottez un peu et vous verrez, vous ne penserez plus. Mais ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Ils ne peuvent pas parler comme ça. Ce n'est pas possible de parler comme ça. On n'a pas eu le sentiment d'avoir été écouté. Maintenant, ça va nettement mieux. J'ai retrouvé un équilibre à peu près normal. Je me suis mis à travailler il y a 7-8 mois. À 81 ans, c'est la première fois que j'ai des feuilles de paye, que j'ai un travail classique, déclaré et tout. Maintenant, on veut avoir une justice équitable, qu'on soit indemnisé normalement. Mais même tout en étant indemnisé, je ne sais pas si ça effacera réellement ce que j'ai subi. Parce que par la suite, il y a quand même ce centre de redressement. Ensuite, il y a eu la prison. Mais depuis l'âge de mes 9 ans, j'ai pratiquement toujours été enfermé.
Je m'appelle Daniel Rabia, j'habite à Avallon maintenant. J'ai été placé par la DAS, j'avais que 2 ans et demi. À la suite d'un jugement, on m'a placé avec mon frère, Pierre, à Saint-Baudille-de-la-Tour. Saint-Baudille-de-la-Tour, c'est un tout petit village qui se trouve dans l'Isère, pas loin de Lyon. C'était très bien là, j'étais chez Madame Chapy. J'allais à l'école, j'avais des copains aussi, donc on allait se balader. Un jour, il y a une attente sociale en plein été qui est arrivée. Je ne faisais aucune bêtise, mais simplement la personne qui s'était occupée de nous, qui était âgée, ne pouvait plus s'occuper de nous. Donc il y a eu un second jugement pour nous placer dans un centre de Hadas à Mercury. Et pendant le parcours, l'assistante sociale avait son chat dans la voiture et elle m'avait prévenu de faire attention au chat. On s'est arrêté pour faire les besoins et je n'ai pas fait attention au chat, le chat est parti. Donc il s'est évadé, on a cherché après pour le retrouver, on ne l'a pas retrouvé. Et je me suis toujours demandé tout ce qui s'est arrivé après, si ce n'était pas à cause du chat, de l'assistance sociale, comme une vengeance. Quand on est arrivé à Mercury, mon frère et moi, avec l'assistance sociale, on s'est retrouvés dans une cour, un grand bâtiment en face, ça faisait grand. Les trois centres se trouvaient au-dessus de Berville. Il y avait l'étanche, où il y avait les petits. Après, on allait à Mercury, c'était les moyens. 10, 11 ans, jusqu'à 12 ans. Et après, il y avait Tamier, où c'était grand, 13, 14 ans, jusqu'au certificat d'études. Là, au départ, je ne pense pas que ça allait être définitif. Je pensais que c'était le temps que Mme Chapy se remette. Mais on a été vite mis dans le bain. Le pire, c'est que mon frère, il avait 2 ans de plus que moi. On a été séparés dès le mois de septembre. Moi, qui étais plus jeune, donc je me suis retrouvé à l'étanche. On était une trentaine à peu près. Et c'est là que la première punition que j'ai eue, c'est courir pieds nus dans les graviers. Je ne me rappelle plus du tout pourquoi. Des fois, on était punis sans raison. L'étanche, ça a été moins pire des deux autres. J'arrive à Mercury, j'avais 9 ans, j'allais sur mes 10 ans. À Mercury, la première chose qui m'a marqué, c'est la claque que je me suis pris. Là, on était en rang pour aller à la douche. Et je ne sais même pas pourquoi, j'ai pris une claque et je me suis retrouvé par terre. Et à ce moment-là, j'ai les oreilles qui ont commencé à couler. Des otites suppurées. Il y a comme du pus qui sort des oreilles et qui coule. Ça coulait jusque dans le cou. Et ça n'arrêtait pas. Les otites a duré jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Et même maintenant, je ne peux pas mettre ma tête sous l'eau. Et c'est pas la première fois que ce moniteur-là faisait cette chose-là. Et pour ainsi dire, c'est le même qui a crevé l'œil d'un autre gamin. Et quand on allait aux douches, il y a des groupes qui étaient à l'intérieur et d'autres groupes qui se déshabillaient dehors. Donc on attendait en slip dehors. Et à côté, il y avait un autre bâtiment où il y avait les filles. Donc quand on se déshabillait dehors, les filles voyaient tout ce qui se passait. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, jamais pu être avec une femme ou même les mots « je t'aime », les mots comme ça, j'arrive pas à le dire. Et pour le courrier, on avait des copains qui allaient mettre les lettres directement dans la boîte aux lettres. Et ces lettres revenaient au centre. On ne pouvait pas mettre n'importe quoi sur le courrier, vu que les lettres, ils étaient lues. Soit dès que la lettre revenait, ils se prenaient des raclés, des coups de ceinturon. Et souvent, c'était le curé qui donnait les coups de ceinturon. Après, dans les lettres, marqué « tout va bien », « je vais bien », « il fait beau », pour ne pas parler de ce qui se passait vraiment. Là, ce qu'on mangeait à Mercury, souvent c'était de la purée de pois cassé. Il y avait de la polenta, c'est de la semoule de maïs. Donc ça bourrait bien, mais même pas une heure après, on avait faim. Au début du repas, déjà, il y avait la prière. Pendant le repas, c'était interdit de parler. Et après le repas, de nouveau les prières. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Merci, petit Jésus. Un jour, il y a des bruits qui courent, comme quoi il y a un enfant qui est mort, qui se serait fait électrocuter avec une baladeuse en allant chercher une pomme dans la cave. Il est mort. Il avait 10 ans. Cet enfant-là, il a été enterré dans le caveau familial du prêtre à Mercury. Quand je suis sorti des centres, j'allais sur mes 15 ans, je faisais que 32 kilos. L'organisme était habitué comme ça, il mangeait très peu. Donc j'ai refait 3 ans dans un centre d'apprentissage. Mais celui-là, il n'y avait rien à voir avec les 3 autres centres. C'était quand même l'enfer, la belle étoile, oui, ça c'est sûr. Et quand je suis sorti des centres d'apprentissage, je suis monté en région parisienne. J'ai connu une personne qui s'occupait d'athlétisme. Donc par lui, j'ai connu le club d'athlétisme de Villepinte. Et là, j'ai commencé à faire des compétitions. Je faisais le vide en moi, je pensais qu'à regarder tout autour de moi, les paysages et tout. Et pendant ce temps, je pensais pas à ce que j'avais vécu avant. Et après, j'ai passé mon diplôme d'initiateur et j'ai commencé à entraîner. Et j'ai entraîné pendant 36 ans. Quand je me suis occupé d'enfants, j'ai pu leur apporter tout le bonheur que moi, j'ai pas pu avoir. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à gueuler sur les gamins. Même la présidente du club, elle me disait toujours d'être plus sévère avec eux. Mais je ne pouvais pas. Toutes les années que j'ai passées à Belle Étoile, ça a fini que je me renferme sur moi-même et ne plus faire confiance à personne. J'arrivais du mal à parler avec quelqu'un. Mais ma timidité a commencé à partir dès que j'ai retrouvé mes camarades par Internet. Après, on s'est réunis entre les anciens pour reparler de tout ce qui s'est passé, notre vie et tout. Et ça fait du bien. Il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas cru ce qu'on avait vécu. C'est pour ça qu'on a... presque tout le monde a gardé le silence. Et j'en avais jamais parlé à personne. Ma famille ne savait rien du tout. Avec mon frère non plus, j'en ai jamais parlé. Et petit à petit, à force de voir un peu plus de monde, de m'ouvrir un peu plus, là j'ai commencé à pouvoir parler. Ça va beaucoup mieux quand même.
C'était Les enfants de la belle étoile, un reportage d'Antoine Guériment réalisé par Somaya Dabesh. Merci bien sûr à André et à Daniel, ainsi que tout particulièrement à Clémence Davigo, réalisatrice d'un film intitulé Les oubliés de la belle étoile, qui sera disponible sur la formidable plateforme Tank à partir du 24 mai, ainsi que sur le site de Mediapart, et on vous le redira. À ce moment-là, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Se arremolina y más.